السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور يعني
C'est-à-dire ceux qui, si nous les établissons sur la terre, observeront la prière et paieront la zakat et enjoindront le bien et interdiront le mal. Et à Allah appartient la décision finale de toutes les affaires. Dans ce verset, Allah, l'exalté, explique que le vrai croyant est celui qui, après avoir pris les rênes du pouvoir, après avoir connu la paix suivant une période de faiblesse et de détresse, celui qui profite d'une meilleure situation et qui arrive ainsi à rendre culte à Dieu et à pratiquer les préceptes de sa religion, eh bien, celui-là ne pense pas à assouvir ses désirs personnels et ses penchants égoïstes. Au contraire, il est assidu dans ces soins-là et il consacre toute son attention à ces soins-là. Il fréquente sa mosquée et il sert l'humanité. Il nourrit la crainte de Dieu en son cœur. Et il puise de ses biens pour dépenser en faveur des pauvres. Il consent à des sacrifices pour la diffusion du message de la foi. Il dépense de ses biens pour la cause de la religion de Dieu et il purifie ainsi ses biens. Et il est vigilant concernant l'accomplissement de bonnes œuvres, et il enjoint le bien et il conseille autrui à s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers son prochain. Il se prémunit du mal, et il empêche aussi les autres de sombrer dans le mal. Étant donné qu'il accomplit ses œuvres en nourrissant la crainte de Dieu en son cœur, étant donné qu'il accomplit ses œuvres parce qu'il suit les commandements de Dieu, Allah fait fructifier ses œuvres en lui accordant les meilleurs résultats. Car c'est bien Dieu qui accorde toutes les faveurs. Ainsi donc, l'œuvre accomplie suite au commandement divin, en ayant la crainte de Dieu au cœur, eh bien, cette œuvre donnera certainement de meilleurs résultats. Si chacun d'entre nous comprend ce principe, eh bien, nous mériterons les faveurs divines. Vous avez bâti une mosquée ici à Mahdiabad. Les jours précédents, j'ai fait l'ouverture d'une mosquée à Fulda et d'une autre à Gießen. Par la grâce d'Allah, la Jamaat de l'Allemagne est en train de bâtir des mosquées sous l'égide du plan des 100 mosquées. Certainement, les membres de la Jamaat consentent à des sacrifices financiers pour bâtir des mosquées. Ils le font car ils doivent rehausser le niveau de leurs actes d'adoration en accord au commandement de Dieu. En venant s'établir ici, après avoir quitté le Pakistan, eh bien, notre situation financière est bien meilleure. Cela doit encourager chacun d'entre nous de dépenser dans la voie d'Allah. Cela doit nous pousser à dépenser dans la voie d'Allah et de bâtir en son nom une maison, afin que nous puissions nous réunir pour établir la Salah, et afin que nous puissions accomplir en ces lieux la Salah en congrégation. Nous devons porter une attention particulière quant à la personne de Dieu au cours de la Salah. En toute liberté, nous pouvons désormais nous acquitter de notre devoir envers Dieu. Au Pakistan, nous ne jouissons pas de la liberté religieuse. Là-bas, au Pakistan, la loi du pays ne nous permet pas de bâtir des mosquées. La loi du pays ne nous permet pas de prier en toute liberté. Et la loi du pays ne nous permet pas d'adorer Dieu en accord aux exigences de son culte. Ici, par contre, nous bâtissons des mosquées. Nous bâtissons des mosquées afin que nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers Dieu. Dieu nous a accordé des faveurs matérielles. Chacun d'entre nous doit réfléchir à ce propos. Nous devons, à cet égard, nous acquitter de nos devoirs envers ses serviteurs. D'ailleurs, nous sommes en train de le faire. Nous avons prêté allégeance au Messie premier al-Islam afin que nous puissions améliorer notre condition spirituelle, afin que nous puissions améliorer notre condition morale. Nos mosquées doivent attirer notre attention à cet égard. Nous devons être animés de ces sentiments et nous devons faire de notre mieux à cet égard. Tout Ahmadi habitant ici doit avoir ces sentiments en tête. Tout Ahmadi habitant ici doit aussi prouver cela par ses actions. Sinon, bâtir des mosquées ne servira à rien. Ainsi, tout Ahmadi doit comprendre qu'il n'atteindra pas son objectif rien qu'en bâtissant des mosquées. Il pourra atteindre son objectif lorsqu'il consacrera toute son attention à Dieu en toute sincérité et lorsqu'il sera assidu dans ses soins-là, lorsqu'il viendra accomplir ces soirées en congrégation dans la mosquée. Il pourra atteindre son objectif lorsqu'il va consacrer toute son attention à Dieu durant la soirée. S'il est distrait lors de la soirée, eh bien, il concentre de nouveau toute son attention vers Dieu et vers la soirée. Il doit comprendre que la soirée lui offre l'occasion de converser avec Dieu. Il n'est pas là pour se contenter de se lever, de se baisser, de se prosterner ou de répéter des paroles en langue arabe. Il doit aussi converser avec Dieu dans sa propre langue. On doit tenter d'accomplir la soirée grâce à laquelle l'on rencontre Dieu. Le Messie premier l'Islam décrit les qualités d'un muttaqi et d'un véritable croyant en ces termes. Le muttaqi redresse sa salat dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, le muttaqi redresse sa salat. C'est-à-dire que parfois sa salat tombe et il tente de la redresser. Le muttaqi craint Dieu et il redresse sa salat. Il est confronté à des doutes et à des dangers dans cet état, des doutes et des dangers qui entravent sa voie. Les doutes naissent dans son cœur ainsi que les pensées détournant son attention de Dieu. Et ces doutes et ces pensées symbolisent la chute de sa soi-là. Redresser la soirée signifie ramener toute son attention vers Dieu de nouveau. Mais si l'on est un véritable muttaqi et un véritable croyant, eh bien, l'on tentera de rétablir sa soirée même au cours de cette lutte de l'âme. C'est-à-dire, la soirée chute et l'on est victime de distraction. Or, la taqwa exige de ramener de nouveau sa concentration sur la salat et sur la personne de Dieu. Voilà donc ce que signifie redresser la salat. Le Messie premier l'Islam ajoute, « Avec effort, le croyant tente de relever sa salat. » Ici, l'on est constant dans la salat en tentant d'atteindre l'apogée de la salat. Eh bien, un temps vient lorsqu'on est récipiendaire de la direction divine grâce à la parole de Dieu. Ensuite, le Messie premier l'Islam explique ce qu'il entend par cette direction. Il déclare, lorsqu'on atteint ce stade, l'effort n'est plus nécessaire pour relever la salah. Arrivé dans cet état, la salah ne tombe plus et l'on n'est pas distrait pour rétablir sa concentration lors de la salah. Après avoir eu cette direction, la salat se transforme en nourriture. Cette salat devient comme cette nourriture dont a besoin le corps humain. Ainsi, la salat se transforme en nourriture pour l'épanouissement spirituel. On ne peut se maintenir en vie sans aliment physique. C'est une explication que je présente ici. L'on ne peut se maintenir en vie sans aliment physique. De même, l'on n'arrive pas à se maintenir en vie sans cela. L'on ne se contente pas de consommer cette nourriture pour se maintenir en vie. Au contraire, l'on tire plaisir de ce mets que l'on consomme. Le Messie premier l'Islam ajoute, l'adorateur tire de sa soirée un délice et un plaisir semblables à ceux que procure l'eau fraîche lorsqu'on est assoiffé. En effet, on boit cette eau avec beaucoup d'envie et on en tire un grand plaisir. Lorsqu'on meurt de soif et que l'on trouve de l'eau fraîche, on en tire un grand plaisir. Il en est de même de celui qui est bien guidé lorsqu'il prie. Le Messie premier Islam a présenté un autre exemple. Cette personne ressemble à la famille qui tombe sur une nourriture des plus exquis et qui s'en délecte. Ceci est la condition de la sourate véritable. On accomplit la sourate avec plaisir et non en la considérant comme un fardeau. Le Messie premier l'Islam déclare que la sourate est pour le véritable croyant source d'ivresse. Sans cette sourate, il vit une angoisse terrible, à l'instar du manque ressenti par un toxicomane lorsqu'il est privé de sa drogue. De même, l'adorateur connaît une détresse terrible, mais lorsqu'il accomplit la salat, il ressent un plaisir et une fraîcheur particulière. Le Messie premier l'Islam ajoute, « Il n'y a pas de mots pour décrire ce plaisir ressenti en accomplissant la salat véritable. » Le croyant et le muttaqi tirent plaisir de sa sola, d'où l'importance d'embellir sa sola. La sola est la clé de tout progrès. La sola est la marche qui mène vers le progrès. C'est pour cette raison qu'il est dit que la sola est la miraj du croyant. Ainsi, par l'entremise de la sola, on atteint Dieu. Nous avons bâti ces mosquées pour accomplir pareil cela. Nous avons bâti des mosquées pour accomplir des cela de cette catégorie. Si nous souhaitons bâtir des mosquées, c'est pour atteindre cette miraj, c'est par ce moyen que nous pourrons atteindre Dieu, et c'est par ce moyen que nous pourrons converser avec lui. Et il ne faut pas désespérer en croyant que l'on ne pourra pas atteindre ce statut. Dieu accorde ce statut suite à des efforts constants. Beaucoup de gens m'informent par écrit et verbalement qu'ils n'arrivent pas à se concentrer lors de la sola. La solution est de faire des efforts constants pour maintenir sa concentration. Lors d'une rencontre, une personne informa le Messie premier l'Islam qu'elle ne tirait plus du plaisir et de l'engouement de sa sola et qu'il en souffrait beaucoup, étant donné qu'il avait naguère goûté au plaisir de la sola. La personne a dit, je suis assailli de doutes, quoique j'essaye tant bien que mal de les repousser. Que me conseillez-vous de faire ? A-t-il demandé au Messie premier al-Islam. Le Messie premier al-Islam a répondu, c'est là une faveur divine, que l'on n'est pas subjugué par ses pensées. C'est-à-dire, vous avez conscience de leur présence, mais vous les avez combattus. Tant qu'on ne se laisse pas subjuguer par ses pensées, l'on est dans un état de récompense. Ainsi donc, Allah est gracieux et miséricordieux, et il récompense lorsqu'on passe par cet état. Le Messie premier l'Islam déclare, « Celui qui est sous l'emprise de sa nafsi l'amara, de l'âme qui incite au mal, ignore ce qu'est le vice. Il commet sans cesse des méfaits en état d'inconscience. Celui qui commet le mal dans l'état de la nafsi l'awama, de cette âme qui reproche, eh bien, celui-là, il éprouve de l'inquiétude et des remords. Allah récompense celui qui est dans l'état de la nafsi l'awama et qui regrette le mal qu'il a commis, qui s'en inquiète et qui se repent. Cette personne-là n'est pas esclave de son âme. Cette personne-là est récompensée par Dieu. Le Messie premier Islam affirme qu'il n'y a pas raison de s'inquiéter. Si l'on est assailli de pensées et de doutes et que l'on tente de s'en débarrasser, eh bien, l'on va mériter des récompenses divines. Cette personne-là n'est pas esclave de son âme. Et d'ailleurs, il faut, jusqu'à un certain point, connaître cette condition. Et le cœur ne doit pas s'en inquiéter, car elle recèle de grandes récompenses. En contrepartie, Allah accorde la lumière et la sérénité. Le temps de la miséricorde divine vient et l'on baigne dans une fraîcheur. Et les obstacles disparaissent. L'on ne doit pas se lasser. Lors des prosternations, l'on doit réciter cette prière à foison. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Il faut réciter souvent cette prière lors des prosternations. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Or, la hâte est dangereuse. Il ne faut pas se hâter. L'islam souhaite rendre l'homme brave. Celui qui est empressé n'est pas brave. C'est un peu heureux. Après plusieurs années d'efforts et de luttes, les assauts de Satan faiblissent en fin de compte et il prend la fuite. Voilà un principe qu'il ne faut jamais oublier. Il faut éviter la hâte et il faut se cramponner constamment à Dieu. Et il faut se prosterner constamment devant la personne de Dieu. Il faut se prosterner devant Dieu. Un jour, Satan baissera les bras et il prendra la fuite. Mais si l'on est empressé et si l'on ne s'évertue pas d'établir fermement sa salat, eh bien, on tombera un jour entre les griffes de Satan. L'homme en général est empressé. S'il ne voit pas des résultats immédiats, il affirme que la prière n'est d'aucun avantage. Or, si l'on se limite qu'à demander le monde, eh bien, Allah n'exaucera pas ses prières. Si nous demandons par contre à Allah de nous offrir le progrès spirituel et matériel, si nous demandons à Allah de nous accorder sa proximité, eh bien, il va se rapprocher de nous. Il va se rapprocher de nous et il va aussi combler nos besoins matériels. Il existe des méthodes à suivre et des principes à respecter quand on implore Dieu. Il faudra les respecter, ces principes. Il est impossible qu'Allah annonce d'une part c'est-à-dire « Implorez-moi et je vous répondrai » et que d'autre part, il n'exauce pas la prière de celui qui l'implore. Le Messie premier l'Islam explique en ces termes ce sujet. Les supplications et daroud récitées lors de la salat sont en langue arabe. Or, il ne vous est pas interdit d'implorer Dieu dans votre propre langue lors de la salat. Allah exige que la salat soit empreinte d'humilité et qu'on y consacre toute son attention. C'est-à-dire qu'il faut se faire humble, il faut adoucir son cœur, il faut faire naître en soi l'humilité et il faudra être conscient qu'on est devant la personne de Dieu. Il est dit « Innal hasanate yudhibna sayyi'at ». Les hasana, la vertu, éloigne le mal. La salah est cette hasana. C'est en implorant Dieu avec concentration et en toute humilité qu'on obtient cette hasana. L'humilité prend naissance et le cœur se fond lorsqu'on implore Dieu dans sa propre langue et lorsqu'on comprend ce qu'on est en train de demander à Dieu. C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam nous demande de prier aussi dans nos langues respectives. Ensuite, le Messie premier l'Islam explique « Il est aussi nécessaire de réciter les prières qu'Allah nous a enseignées. Et la meilleure des prières est la Sourate al-Fatiha, car la Sourate al-Fatiha est exhaustive. » Dieu nous enseigne de la sourate al-Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim, c'est-à-dire guide-nous sur le droit chemin. Le sens de cette prière est très vaste. Le Messie premier Islam explique, lorsqu'un cultivateur maîtrise l'art de la plantation, eh bien, il atteint la sirat al-mustaqim de l'agriculture. Lorsqu'un cultivateur maîtrise l'art de la plantation, lorsqu'il comprend comment ensemencer sa terre, comment labourer sa terre, comment ensemencer la terre, quand ensemencer la terre, quand fertiliser la terre, et quand l'arroser et quand la désinfecter, eh bien, il atteint à la Sirat al-Mustaqim de l'agriculture, c'est-à-dire qu'il atteint la Sirat al-Mustaqim de son domaine. De même, conseille le Messie premier des salams, cherchez la Sirat al-Mustaqim qui mène à Dieu et priez en ces termes, « Ô mon Seigneur, je suis ton serviteur pécheur et je suis seul, guide-moi. » Sans être embarrassé, il faudra présenter à Dieu toutes ses requêtes, grandes et petites, car c'est Dieu le véritable donateur. Le plus vertueux est celui qui prie beaucoup, car si un mendiant frappe tous les jours à la porte d'un grand avare, eh bien, tôt ou tard, un jour, cet avare sera embarrassé. Comment est-il possible que l'on quémande à Dieu, Dieu dont la générosité est sans pareil, et qu'en retour, il n'octroie rien? Ainsi, tôt ou tard, celui qui demande est exaucé. Le deuxième nom de la sola est ad-dua, la supplication, tout comme Allah affirme « Ud'uni astajib lakum ». C'est-à-dire « Appelez-moi et je vous répondrai ». Ensuite, Allah affirme « Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ». « Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an ». Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, certainement je suis tout prêt et j'exauce la prière de celui qui me supplie. Le Messie premier alayhi salam explique, certaines personnes mettent en doute l'existence même de Dieu. Mais Allah affirme que la preuve de son existence est qu'il répond à celui qui l'implore, et il répond à celui qui se souvient de lui. Certaines personnes assurent qu'ils ont imploré Dieu à maintes reprises, sans pour autant recevoir de réponse en retour de la part de Dieu. Le Messie premier Islam explique, « Si vous appelez une personne qui est très éloignée de vous, et qu'en plus de cet éloignement, vous-même, vous souffrez de surdité, et que d'autre part, votre interlocuteur entend quand même votre voix et qu'il vous répond. En raison de la distance qui vous sépare et en raison de votre trouble auditif, eh bien, vous ne pourrez pas entendre votre interlocuteur lorsqu'il va vous répondre. Étant donné que vous êtes loin et que vous souffrez de surdité, vous ne pourrez pas l'entendre lorsqu'il vous répond. Au fur et à mesure que les obstacles disparaissent entre vous, et au fur et à mesure que vous vous rapprochez de lui, vous allez l'entendre. Plus l'on se rapprochera de Dieu, mieux on l'entendra. Le Messie premier Islam explique, « Depuis la création du monde, il existe des preuves que Dieu parle à ses choisis. » Sinon, peu à peu, l'on aurait nié jusqu'à son existence. Ainsi, la plus grande preuve de l'existence de Dieu est que nous pouvons l'entendre. On peut soit le voir, soit lui parler. L'entendre aujourd'hui a remplacé la vision de sa personne. Or, tant qu'il subsistera un voile entre Dieu et celui qui le quémande, eh bien, il ne pourra pas l'entendre. Quand ce voile disparaîtra, c'est là que nous pourrons l'entendre. Ainsi, il est important de se débarrasser de ce voile. D'ailleurs, Allah promet de partir vers celui qui avancera vers lui en toute sincérité. Il promet de partir vers celui qui tentera de comprendre sa personne. Selon le saint prophète Mohammed, celui Allah affirme faire deux pas dans la direction de celui qui viendra vers lui. Allah affirme courir vers celui qui marche dans sa direction. Ainsi, les défauts résident en nous. Nous devons partir dans la direction d'Allah. Nous avons besoin de son aide pour trouver sa voie. Nous avons besoin de son aide pour le rencontrer. Étant donné que nous affirmons avoir prêté allégeance au Messie Premier Islam, nous devons nous évertuer à nous rapprocher de Dieu. Il ne suffit pas d'appliquer uniquement ce dire du Messie Premier Islam dans lequel il nous conseille de bâtir des mosquées afin de faire connaître l'islam. Les efforts sont nécessaires à cet égard, ainsi que l'aide d'Allah. L'on aura du succès quand on jouira du soutien divin tout en accomplissant de bonnes œuvres. Le Messie premier d'Islam affirme « Le repentir accompli au moment du serment d'allégeance sera béni. » Et l'on progressera de surcroît en promettant de préférer la foi à ce monde. C'est-à-dire, lorsqu'on a fait le serment d'allégeance, l'on est béni. Mais lorsqu'on va mettre la condition que l'on va préférer la foi à ce monde, eh bien, l'on va progresser. Mais vous n'êtes pas à même d'accorder cette préférence à la foi sur le monde. Pour ce faire, vous aurez grandement besoin de l'aide d'Allah. Tout comme Allah lui-même l'affirme. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا C'est-à-dire, quant à ceux qui font des efforts pour notre cause, eh bien, nous les dirigeons assurément sur nos voies. Le Messie promet l'Islam explique « La graine ne peut pousser sans effort et sans arrosage de la part du cultivateur. » Si on met une graine en terre et qu'on ne fait pas des efforts pour s'occuper de cette graine, si on ne l'arrose pas, eh bien, cette graine ne sera pas bénite et ne va pas pousser, voire elle sera très faible et va disparaître. De même, dit le Messie promet l'Islam, si vous ne réitérez pas quotidiennement la promesse de préférer la foi à ce monde, eh bien, vous n'allez pas mériter les faveurs divines. Si vous ne demandez pas l'aide de Dieu, eh bien, vous n'allez pas mériter les faveurs divines. Sans l'aide de Dieu, il n'y aura pas de changement. Il est impossible qu'il y ait des changements sans l'aide de Dieu. C'est pour cette raison qu'il faudra quémander son aide et ses faveurs. Le Messie premier l'Islam ajoute le voleur, le vicieux, l'adultère et les autres pécheurs ne se vautrent pas constamment dans le péché. Parfois, ils sont pris de remords. Il en est de même de tous les pécheurs. Il en découle que l'on aspire à faire le bien. L'aide de Dieu est plus que nécessaire afin de traduire cette idée dans la pratique. D'où la raison derrière l'ordre de réciter la Sourate Al-Fatiha durant les cinq prières quotidiennes. Dans la Sourate Al-Fatiha, où l'on trouve cette prière « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », c'est-à-dire « C'est toi seul que nous adorons et nous demandons à toi seul le secours ». Il s'y trouve deux indications. Tout d'abord, que toute bonne entreprise exige le recours à ses aptitudes, au plan et à des efforts. On doit user des aptitudes qu'Allah nous a accordées, on doit utiliser les plans à notre disposition, il faut faire des efforts. Ceci a été indiqué dans le verbe « narbodo », c'est-à-dire que nous adorons Dieu. Celui qui se contente de prier sans faire des efforts, eh bien, celui-là, il n'aura pas de succès. Il faudra faire des efforts, c'est là que l'on aura du succès. Si un cultivateur met une semence en terre mais qu'il ne fait pas d'effort, il ne va pas récolter des fruits. Selon la sunna de Dieu, si l'on se contente de prier après avoir planté cette graine en terre, eh bien, l'on ne va pas pouvoir en profiter. Prenons l'exemple de deux cultivateurs. Le premier travaille très dur et il laboure sa terre. Celui-là va certainement réussir. Le deuxième ne fait aucun effort. Il fait presque rien. Ses récoltes sont toujours mauvaises. Peut-être qu'il n'arrive même pas à payer ses impôts et qu'il vit dans la pauvreté. Il en est de même dans les œuvres spirituelles. Parmi les musulmans, l'on trouve des hypocrites. Parmi les musulmans, on trouve des fainéants, des pieux et des abdars, des kutub et des raus, des saints de toutes catégories. Les gens sont les mêmes, mais on trouve dans leur rang des hypocrites et des fainéants, des pieux et des saints du rang des abdars, des kutub, des raus. Ce sont des personnes qui se rapprochent de Dieu. Certaines personnes prient pendant 40 ans sans pour autant avoir accompli le moindre progrès. Ils ne tirent aucun avantage de leurs 30 jours de jeûne. Ils jeûnent au cours du Ramadan, mais ils n'en tirent aucun profit. Et ils retournent dans le même état qu'avant le Ramadan. Beaucoup se disent muttaqi de premier ordre et disent qu'ils accomplissent la salat depuis des lustres, mais ils se plaignent de ne pas avoir joui de l'aide de Dieu. La raison est qu'ils accomplissent ces ibadats par tradition et par coutume. Et ils ne pensent même pas à leur progrès. Ils ne tentent même pas de connaître leurs péchés. Ils n'accomplissent pas le véritable repentir. Ils demeurent à la case de départ. Ils ne tentent pas de connaître leurs péchés. Quand on tente de connaître ses péchés, eh bien, l'on va accomplir le repentir sincère. Ainsi, ces personnes demeurent à la case de départ. Pareils gens ne sont pas mieux que des animaux. Il n'existe pas de différence entre eux. Pareil, cela attire la colère de Dieu. Pareil, cela ne sont pas exaucés par Dieu. La véritable cela, quant à elle, apporte le progrès. Si un malade utilise pendant 10 jours les médicaments prescrits par son médecin et que son état s'empire de jour en jour, eh bien, le malade va conclure que cette prescription ne lui est pas favorable et il va changer cette prescription. Ainsi, il n'est pas correct d'accomplir les actes d'adoration par tradition et de manière coutumière. L'adorateur devra se remettre en question et se demander pourquoi ses prières ne sont pas exaucées en dépit du fait qu'Allah affirme qu'il répond aux supplications. L'acte d'adoration est celle qui nous rapproche d'Allah. Ensuite, le Messie premier alayhi salam nous explique la réalité de la salat. La salat est une supplication. Chaque parole qu'on y énonce est un signe de la prière. Si votre cœur ne s'intéresse pas à la salat, eh bien, soyez prêt à encourir la punition, car celui qui ne supplie pas se contente de se rapprocher de la destruction. Un roi ne cesse d'inviter les gens en disant « Je suis celui qui soulage la souffrance de ceux qui souffrent ». Ce roi, ce dirigeant, annonce « Je suis celui qui soulage la souffrance de ceux qui souffrent. Je suis le tout miséricordieux. J'aide les désœuvrés. » Et voilà un passant qui est confronté à des difficultés et qui traverse devant ce roi sans se soucier de ses invitations et de ses appels. Le roi dit que voilà, je suis prêt à soulager vos souffrances. Et cette personne, confrontée à ces difficultés, traverse devant lui, mais ne se soucie pas de ses appels. Il ne demande pas son aide. Celui-là ne s'invite-t-il pas à la destruction? Il en est de même de la personne de Dieu. Il est toujours prêt à réconforter l'homme à condition qu'il l'appelle. Évitez la désobéissance si vous souhaitez que vos prières soient exaucées. Priez abondamment, car c'est en frappant la pierre contre la pierre que naîtront les étincelles. Lorsque nos salats seront à la hauteur de cette norme, et lorsque nos œuvres visent à attirer le plaisir de Dieu, eh bien, Dieu va transformer nos craintes en paix. N'oublions jamais que c'est par la grâce de Dieu que nous avons acquis tout ce que nous possédons dans ces pays. Et c'est par la grâce de Dieu que Dieu augmentera ses faveurs. L'adoration d'Allah et le respect de nos devoirs envers nos prochains sont essentiels afin d'attirer ses faveurs. Vous devez vous examiner jusqu'à quel point vous tentez d'être assidu dans vos prières et jusqu'à quel point vous tentez d'établir cette relation sincère avec Dieu et quel est l'effort que vous êtes en train de faire à cet égard. Jusqu'à quel point les œuvres de ce monde entravent nous cela. N'oublions jamais ce conseil du Saint-Prophète Mohammed, le Saint-Prophète qui a déclaré que l'abandon de la Salah est l'action qui distingue la mécréance de la foi. Cette parole du Saint-Prophète Mohammed doit nous ébranler. Abandonner la Salah nous rapproche de l'incroyance. Et le croyant est celui qui accomplit la Salah régulièrement. Sinon, il n'y aura pas de différence entre lui et un mécréant. Allah n'enjoint pas tout simplement la Salah. Il nous recommande de l'accomplir en commun afin de recevoir 25 fois, voire 70 fois plus de récompenses, selon certains dires. Si, en dépit de cela, nous négligeons la Salah sans aucune excuse valable, eh bien, ce sera là à notre grand détriment. Ayant construit des mosquées, nous devons nous acquitter de nos devoirs envers elles. Nous devons rehausser le niveau de nos actes d'adoration. Nous devons être vigilants concernant nos sacrifices financiers. Nous devons accomplir de bonnes œuvres. Nous devons rehausser le niveau de notre moralité et nous devrons aussi enjoindre le bien aux autres. Tout en évitant les maux de cette société, il faudra aussi protéger les autres. Sinon, notre serment d'allégeance sera qu'une vaine parole. N'oublions jamais ce conseil du Messie premier d'Islam. Il a déclaré que vos intentions doivent se conformer à celles de Dieu. Et vous devez satisfaire ses désirs. Vous ne devez rien garder pour vous et tout lui accorder. La pureté signifie débarrasser le cœur de toute chose qui contredit la pratique de Dieu et les croyances. Allah n'aide pas celui qui ne conforme pas ses intentions et ses désirs aux siens. Le Messie promet l'Islam ajoute « Le nombre des membres de ma jamaat ne m'intéresse pas ». Il déclare qu'il existe environ 400 000 Ahmadis ou plus. Mais le Messie promet l'Islam déclare que la Jamaat ne signifie pas se contenter de placer une main sur l'autre et de prêter allégeance. L'on devient membre d'une Jamaat lorsqu'on applique toutes les consignes de la Bayra, lorsqu'on se purifie sincèrement, lorsqu'on se débarrasse de l'immondice des péchés. On devient membre de la Jamaat lorsqu'on sort des griffes de ses désirs libertins et de Satan et lorsqu'on se perd dans le plaisir de Dieu, lorsqu'on s'acquitte de ses devoirs envers Allah et envers autrui, de gaieté de cœur et à la perfection, lorsqu'on est animé de cet ardent désir de servir la foi et de diffuser son message, lorsqu'on détruit ses désirs et ses intentions pour appartenir entièrement à Dieu. Dieu affirme, « Vous êtes tous égarés, hormis celui que je guide. » Vous êtes tous aveugles, hormis celui à qui j'accorde la lumière. Vous êtes tous morts, hormis à celui que j'accorde l'élixir de la vie spirituelle. Dieu étant celui qui couvre les péchés, cache les vices des hommes. Sinon, si leur fort intérieur était mis à nu, peut-être que certains ne s'approcheraient pas des autres. C'est l'attribut de Satar de Dieu qui couvre nos péchés. Si nos péchés étaient dévoilés au grand jour, certains des nôtres ne s'approcheraient pas des uns et des autres. Il ajoute Dieu et Sattar. Il ne dévoile pas les défauts des uns aux autres. Il est important que l'homme essaye de faire des actions pieuses et qu'il fasse constamment des supplications. S'il n'y a aucune différence entre les membres de la communauté et les autres, alors sachez qu'Allah ne fait pas partie de la famille de personne. Nous sommes Ahmadi, nous avons prêté le serment d'allégeance, et s'il n'y a aucune différence entre nous et les autres, eh bien, nous devons garder à l'esprit que Dieu ne fait pas partie de notre famille. Pourquoi est-ce qu'il va nous honorer? Et pourquoi est-ce qu'il va nous accorder sa protection? S'il n'y a pas de différence, eh bien, Dieu n'étant pas membre de notre famille, il n'est pas tenu de nous honorer. Il n'est pas tenu d'humilier nos adversaires et de les châtier. Le Messie premier de Salam ajoute « Innama yataqabbalullahu minal muttaqin » Les muttaqis sont celles qui, par crainte de Dieu, rejettent tout ce qui va à l'encontre de sa volonté. Et face à lui, elles considèrent leur propre personne, leurs désirs personnels et les choses mondaines comme insignifiantes. On ne peut se rendre compte de notre niveau de foi que lorsqu'on est face à des adversités. Certaines personnes écoutent une parole par une oreille et le font sortir par l'autre. Ces personnes ne réfléchissent pas sur ces conseils, malgré les conseils répétés. Allah est indépendant, il ne se soucie pas des supplications tant qu'on ne l'implore pas constamment, en étant animé d'une intense sensation de détresse. Grand sera votre désarroi si votre épouse, si votre enfant tombe malade, et si vous êtes frappé de malheur. La prière est un exercice inefficace et futile si elle n'est pas accompagnée d'un émoi sincère et de détresse. Le désarroi est une condition nécessaire à son exaucement, tout comme Allah l'affirme. « Amma yujibul muttara idha da'ahu wa yakshifu su » Qui d'autre exauce les supplications d'une personne en désarroi lorsqu'elle supplie Dieu et qui éloigne ce qui la fait souffrir? Ensuite, le Messie premier des Salam explique « Lorsque vous allez emprunter la voie de la réforme, eh bien, vous devez aussi inclure les membres de votre famille. Vous devez aussi réformer votre femme et vos enfants. » Le Messie premier des Salam déclare « Dieu accorde son soutien à ceux qui ne cessent de progresser dans la voie de la vertu. Ces personnes ne stagnent pas. Ce sont ces personnes qui connaissent une bonne fin. » Certaines personnes sont très enthousiastes et motivées, mais après un certain temps, ces personnes stagnent complètement et ces personnes ne connaissent pas une bonne fin. Allah nous a enseigné cette prière dans le Saint-Coran. « Wa aslih li fi dhurriyyati » Cette prière signifie « Réforme également ma femme et mes enfants, en sus d'opérer des changements purs en soi. » Et en sus de prier, nous devons aussi prier pour nos enfants et notre femme, car souvent, l'on est confronté à des adversités en raison de sa femme et de ses enfants. La première adversité frappa Adam en raison de sa femme. La foi de Balaam a été mise à l'épreuve devant Moïse, et selon la Torah, la raison était que le roi avait montré des bijoux à la femme de Balaam et avait ainsi attisé son envie. En conséquence, la femme de Balaam l'avait poussé à invoquer la malédiction sur Moïse. Ainsi, en raison de la famille, certaines personnes sont sujettes à l'adversité. Il est donc important de s'occuper de la réforme de sa famille et de prier constamment pour les membres de sa famille. Qu'Allah nous permette d'apporter des changements purs en nous et que nous soyons réguliers dans nos salats et que nous puissions rehausser le niveau de nos actes d'adoration. Qu'Allah nous permette de purifier nos biens, d'améliorer nos mœurs et de faire des actions pieuses et que nous puissions aussi propager ses bonnes œuvres. Qu'Allah nous protège des péchés et qu'il préserve aussi notre descendance de ces péchés. Et qu'il nous permette de présenter le message de l'islam aux habitants de ce pays avec la construction de ces mosquées. Et qu'il nous permette aussi d'en faire des adorateurs du Dieu unique. Mais cela pourra se faire uniquement lorsque nous allons apporter des changements nobles en nous. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens. Je vais présenter quelques faits concernant cette mosquée. Cette mosquée se trouve sur le site appelé Mehdiabad. Il se trouve dans le village de Nahe. La Jamaat locale compte quelques membres uniquement là où se trouve cette mosquée. Ce terrain avait été acheté en 1989 et sa partie agricole a été sous-louée par la Jamaat. Quand ce terrain a été acheté, il y avait sur le terrain une maison de ferme ainsi qu'un immeuble. Et nous avions obtenu l'autorisation d'utiliser cette maison comme mission et d'utiliser la grande salle pour la prière. Et tous les travaux ont été accomplis par des bénévoles. L'édifice de la mosquée comprend deux étages ainsi qu'une résidence pour nos missionnaires. En 2010, la mairie avait décidé de déclarer une partie de ce terrain comme habitable. Ainsi, 12 portions de terrain constructibles ont été délimitées et on a pu obtenir la permission de construire une mosquée. Parmi les 12 portions, la Jamaat a gardé 2 pour elle et les autres ont été vendues. La somme qui a été obtenue par la vente du terrain à la mairie était supérieure au montant de l'achat de ce terrain. Six, sept ou huit ans auparavant, j'avais fait la pose de la première pierre de cette mosquée. La construction est complète et la surface construite est de 350 mètres carrés. 210 fidèles peuvent prier dans cette mosquée. L'étage est réservé aux hommes et le rez-de-chaussée aux femmes. Il y a les facilités pour les ablutions ainsi que les sanitaires. Le coût de la construction s'élève à 560 000 euros. Les membres locaux ont fait un don de plus de 200 000 euros. Et le reste de la somme a été obtenu par le fonds de construction des 100 mosquées. Qu'Allah bénisse les biens et les personnes de ceux qui ont consenti à ces sacrifices et que suite à la construction de la mosquée, qu'ils leur permettent de remplir leur devoir d'adoration plus qu'auparavant. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله